Seigneur, nous te remercions tout ce que tu es pour nous. Nous pouvons que contempler ta majesté, ta gloire et ta grande compassion. Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien tu es près de ceux qui souffrent aussi et qui crient à toi de tout leur cœur. Seigneur, tu entends les prières qui montent d'un cœur sincère. Merci pour cette compassion, et merci pour ta grandeur. Seigneur, nous ne voulons qu'une chose, te donner toute la gloire, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, absolument rien. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs encore veulent s'attacher à toi, te dire merci et compter toujours sur toi, car la délivrance vient de toi et de nul autre, Seigneur. Quand on tourne les regards vers les hommes, on est souvent et toujours déçus. Mais quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas d'ombre. Seigneur, ce soir encore, nous regardons à toi. Que ta lumière, la lumière de ta parole, brille encore sur nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous aide à comprendre cette parole et à la mettre en pratique surtout. Car tu ne veux pas des auditeurs oublieux, mais des personnes qui mettent en pratique la parole. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre en nous encore, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pour cette dernière réunion ensemble, nous allons méditer sur une personne dans les Actes des Apôtres qui est un exemple un peu pour chaque chrétien, un exemple encourageant, parce que son nom veut dire fils d'encouragement. Vous avez déjà pensé à cette personne, c'est Barnabas. Barnabas, fils d'exhortation, fils d'encouragement. Et nous allons le voir, il y a beaucoup de leçons dans la vie de Barnabas. On ne pourra pas tout voir, mais nous allons voir quelques leçons importantes. Comment travailler pour le Seigneur? Nous désirons tous travailler pour le Seigneur, n'est-ce pas? Mais on ne travaille pas toujours de la bonne façon. Nous avons souvent de bonnes dispositions, mais les bonnes dispositions ne suffisent pas toujours. Et nous allons voir avec Barnabas, il y a quelques belles qualités qui étaient en lui et que le Seigneur veut trouver en nous pour que nous puissions travailler d'une manière qui soit agréable au Seigneur et que le Seigneur peut richement bénir. Alors, on va lire un verset au début dans Acte 4, verset 36. Acte 4, 36, il est dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas ». C'était donc un surnom en plus, Barnabas. Son vrai nom, c'était Joseph. Surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation ou d'encouragement, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il y a plusieurs passages où l'on voit Barnabas dans les Actes des Apôtres. On pourrait étudier tout cela, c'est merveilleux. Mais nous allons retirer quelques leçons spirituelles importantes dans les deux versets que nous venons de lire. Dans ces deux versets, il y a déjà de quoi apprendre de lui et découvrir pourquoi cet homme qui a commencé comme cela a fini après comme un apôtre et a été le collaborateur de Paul. Nous, bien sûr, ce qui nous intéresse parfois, c'est de voir la fin. On voit la fin de la vie de Barnabas et on veut être comme lui, mais on ne veut pas connaître son commencement. On ne veut pas voir d'où il vient, par où il est passé, comment il a commencé. Nous, nous voulons savoir comment il a fini. On veut tout de suite le grand ministère. Et le petit ministère, comment il a commencé, ça ne nous intéresse pas. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Le Seigneur a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai des plus grandes. C'est donc dans les petites choses que Dieu nous teste. Alors voyons quelques qualités qui se trouvent dans Barnabas et qui nous permettent de bien travailler pour le Seigneur. Comment donc travailler pour le Seigneur, d'une manière que Dieu approuve. Premièrement, c'était donc un converti qui rendait un bon témoignage. Voilà une leçon, une vérité qu'il faut déjà bien souligner. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, Joseph, surnommé par les apôtres, ça veut dire que ils l'ont observé. N'est-ce pas vrai? Ils l'ont observé pendant un certain temps, un an, deux ans, je ne sais pas. Puisqu'ils l'ont surnommé fils d'encouragement, c'est qu'ils l'ont vu faire. C'est qu'ils l'ont vu rentrer dans l'église. Toujours une petite tape sur l'épaule de l'un ou de l'autre, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas, le Seigneur va t'aider. Il était toujours prêt à faire quelque chose pour le Seigneur. Mais la première vérité, c'est celle-ci maintenant, c'est qu'il rendait un bon témoignage. Tout ministère commence par cela. Et quelqu'un qui veut avoir un ministère sans avoir un bon témoignage, il va au-devant de la catastrophe. Les autres rendaient de lui un bon témoignage. Il est bon que les autres rendent de nous un bon témoignage, les chrétiens, l'Église. Parce que si l'Église déjà ne rend pas de nous un bon témoignage, on ne peut pas aller bien loin. Autrement dit, il nous voit vivre là où nous sommes, et c'est là que nous devons montrer que nous aimons vraiment le Seigneur. On rendait de lui un bon témoignage. Et même plus tard, quand Paul a choisi Timothée, il est dit que là où il était Timothée, les frères rendaient de lui un bon témoignage. Voyez-vous, Paul n'a pas choisi n'importe qui. Un jeune homme ici, grand, beau. Nous, on est impressionnés par la beauté. Saül, par exemple, il était beau. On est impressionné par l'apparence, par quelqu'un qui parle bien. Là, ça fait un bon prédicateur. Sûrement qu'il y a quelque chose. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est là une leçon que nous devons tous apprendre. Parce que bien souvent, nous sommes trompés par les apparences. Et là où on dit, oh, celui-là, il ne va pas faire grand-chose. Il sait à peine parler quand il ouvre la bouche. Pas d'espoir avec celui-là. Et on se fait ainsi beaucoup de fausses idées. Dieu regarde au témoignage et les frères regardent au témoignage. C'est comme cela que ça commence. Si on arrive à rendre un bon témoignage là où on est, alors c'est déjà un bon signe. Ils l'ont surnommé fils d'encouragement. Est-ce que on rend de vous un bon témoignage? C'est pas vous qui devez dire, hé, hé, oh, c'est pas qui vous avez devant vous. Il y en a qui sont comme ça pour entrer dans le ministère. Ils se prêchent eux-mêmes. Et là, ça fait un mois, un an que je suis ici. Vous n'avez encore rien vu? Ah ben, si on n'a rien vu, c'est qu'il n'y a rien à voir. Mais non, on n'a rien vu. Ah ben, c'est qu'il n'y a rien à voir. Et c'est ainsi qu'on pense que Dieu agit. Mais si vous rendez un bon témoignage, les autres le verront. Et pas seulement cela, Dieu le verra. Et en tiendra compte. Dieu le verra, et à partir de ce moment-là, les choses commenceront à changer. Il mettra à cœur aux apôtres de te surnommer et de t'appeler. Il pourra utiliser qui il veut, mais il commencera à se passer quelque chose. Mais on ne peut pas brûler les étapes. Car dans le ministère, on apporte aux autres ce que nous avons nous-mêmes. Si nous n'avons pas grand-chose, nous n'apporterons pas grand-chose. Si on avait une vie qui bancale comme celle-là, boiteuse, on aura un ministère boiteux. Et tous ceux qui nous écouteront seront tous boiteux. Un prédicateur, un chrétien, ne peut pas conduire les autres plus loin que là où il est lui-même. Amen. Ce sont des vérités toutes simples. C'est pourquoi il est toujours bon avec le Seigneur. Ça commence toujours lentement. Il faut toujours faire attention quand ça commence très vite quelque part avec un ministère. C'est jamais bon signe. Ça veut dire qu'on a brûlé les étapes. Et que tôt ou tard, il y aura des coups durs, des choses qui feront que des choses graves peuvent se passer. D'où l'importance d'avoir un bon témoignage. Le ministère commence par là. Amen. On vous observe, mais surtout, Dieu vous observe. Et Barnabas, dans tout cela, d'après vous, est-ce qu'il a forcé un peu la porte, là?
Non.
Il n'a rien forcé du tout. C'est les autres qui l'ont surnommé comme ça. C'est pas lui qui s'est donné un titre. Il y a beaucoup qui aiment les titres aujourd'hui. Et puis, pendant qu'on y est, on va pas mettre des titres serviteurs, mais apôtre, prophète, pendant qu'on y est. On se met des grands noms maintenant. Et j'ai remarqué, on se met pas des noms serviteurs. C'est trop bas. Il faut impressionner. Il faut en mettre plein la vue. Et voilà comment le ministère est complètement défiguré. On pense qu'un ministère, c'est voilà, venir sur l'estrade et montrer qu'on parle bien et qu'on est bien habillé et qu'on veut impressionner. Ce n'est pas du tout cela. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, il rendait donc un bon témoignage. Commencez par cela. Vous voulez que Dieu se serve de vous? Il faut commencer par un bon témoignage. Si ton témoignage est bancal, alors, ton ministère sera bancal. Ça n'ira pas du tout. Parce que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Première vérité. Il rendait un bon témoignage. Il a su attendre l'heure du Seigneur. Les autres voient, mais Dieu voit aussi. Ça, c'est merveilleux, je trouve. Et ne brûlez jamais les étapes. Ceux qui ont brûlé les étapes se sont brûlés les doigts. Et ils ont gâché leur vie et leur ministère pour toujours. Deuxième qualité, un chrétien qui s'oublie lui-même pour les autres. Son nom, c'est Barnabas. Donc, quelqu'un qui encourageait les autres. Donc, il y a là une belle qualité. Quand vous encouragez les autres, vous ne pensez pas à vous-même. C'est tout simple. C'est tout simple. Il y en a qui ne savent pas du tout encourager les autres parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Au contraire, ils attendent que ce soit les autres qui viennent l'encourager. Deuxième qualité, Barnabas. Ça veut dire, il s'oubliait lui-même. Et là aussi, il y a une vérité importante. Si tu t'oublies toi-même, Dieu ne t'oubliera jamais. Le ministère, c'est cela, c'est s'oublier soi-même. Ce n'est pas se prêcher soi-même. C'est mettre le moi de côté pour que le Seigneur prenne toute la place. Ce n'est pas se faire un nom, une réputation, comme on le voit malheureusement, où on voit trop l'homme dans certains ministères, n'est-ce pas vrai? Trop l'homme. Le Seigneur, on ne le voit pas. Une belle qualité. Chaque fois que Barnabas, on le voyait. D'ailleurs, quand vous lisez les Actes, vous le voyez, il est toujours en train de faire du bien à quelqu'un. Toujours. Il est pour encourager l'un, pour défendre l'autre. Il est toujours en train de faire quelque chose pour quelqu'un. Autrement dit, c'est un homme disponible. Ce ne sont pas nos capacités que Dieu utilise, mais notre disponibilité. Ce n'est pas une question de capacité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de capacités, mais qui n'ont pas de disponibilité. Et Dieu ne peut pas les utiliser. Tandis qu'un autre, qui n'a apparemment pas de capacité, mais qui est disponible, eh bien c'est celui-là que Dieu utilisera. De plus en plus et de mieux en mieux. C'est un encouragement, je trouve. Pour chacun d'entre nous, tu dis que tu n'es rien. Mais gloire à Dieu! Mais tu es justement la personne que Dieu pourra utiliser. Tu sembles ne rien avoir. Alors dis, Seigneur, me voici, je suis disponible. Je n'ai pas grand-chose, mais je suis disponible. Si cette prière est sincère, Dieu l'exaucera. Et vous verrez comment Dieu peut diriger une vie. Un homme qui s'oublie lui-même. Barnabas. Chaque fois que vous le voyez jamais penser à lui. Aujourd'hui, quand vous voyez des ministères, vous ne voyez qu'eux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Tandis que lui, il pensait qu'aux autres. Voilà toute la différence. Dieu cherche de telles personnes, mes amis. Et si Dieu les cherche, s'il y a une telle personne, Dieu la voit. Dieu la bénira. Si tu sais encourager les autres, Dieu t'encouragera. Alléluia. Ça, je l'ai vu. Si tu sais encourager les autres, Dieu t'encouragera. Si tu es là pour les autres, Dieu se tiendra près de toi. Mais il faut s'oublier soi-même. Le ministère, ce n'est pas se faire un nom. Le ministère, ce n'est pas se faire une réputation. Le ministère, c'est laisser toute la place au Seigneur et nous rester de petits serviteurs. Il vient à l'esprit. Un jour, quand Hudson Taylor, le fameux missionnaire, vous connaissez, Hudson Taylor, celui qui était missionnaire en Chine, un grand missionnaire, Hudson Taylor, qui a été missionnaire en Chine. Un jour, il est rentré en Angleterre pour des vacances un peu, hein, pour une tournée missionnaire. Il avait déjà fait en Chine un très grand travail. Et celui qui devait l'introduire l'a introduit, parce qu'il était déjà très connu, Hudson Taylor, et il lui a dit, il a dit aux gens qui étaient là, j'ai le privilège de vous présenter un grand serviteur, Hudson Taylor. Et lui, il a pris la parole et il a dit, je suis le petit serviteur d'un grand maître. Ce n'est pas moi qui est grand, c'est mon maître. Et il a corrigé. Il a dit, je ne suis pas un grand serviteur. Je suis le petit serviteur d'un grand maître. Ce sont là des vérités plus importantes que nous le pensons. Parce que quand Dieu commence à nous utiliser, ça nous monte tout de suite à la tête. Certains, une petite bénédiction, ils ne sont plus les mêmes déjà. Ils ont prié par exemple pour quelqu'un qui a été guéri, pouf, ça y est, un ministère de miracle. Ils ont un ministère de miracles, ça y est. Il veut déjà aller dans le monde entier, ça y est. C'est plus les mêmes. Il y a déjà la carte de visite. Ils sont plus les mêmes. Et quand vous leur parlez, il faut déjà bien se tenir devant eux. Hein. Vous savez plus comment leur parler. Ils vous font sentir que, hé, hey, attention, il y a quelqu'un devant. Un chrétien qui s'oublie lui-même pour les autres. Le ministère, c'est ça. C'est s'oublier soi-même pour les autres. Quand je me suis converti, j'étais dans une église évangélique. Et là, au bout d'un certain temps, j'ai vu que chacun un peu vivait pour lui-même. J'étais un peu attristé. Et je me suis parlé, j'ai dit, Sam, qu'est-ce que c'est? Tu vas vivre comme ça? Dans ton petit coin, comme ça, et puis voilà, c'est ça. C'est ça, ton exemple de vie chrétienne? J'ai dit au Seigneur, Seigneur, non. Si je suis devenu chrétien, c'est pas pour être comme ça. Je veux m'oublier moi-même, et je veux me donner aux autres. Je ne veux pas une telle vie chrétienne, égoïste, centrée sur soi. Et là, j'ai pris la décision. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien comme cela. Égoïste. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux m'oublier moi-même. Et Dieu a entendu ma prière. Il y a eu des combats, des hauts et des bas. Mais quand la prière est sincère, Dieu nous conduit, mes amis, et ne nous abandonne pas. Amen. Ce sont des vérités très importantes. On peut ne pas être considéré à cause de ces choses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu considère ces choses. Parce que ce sont des vérités spirituelles. Ce sont des principes bibliques. Et c'est là-dessus que Dieu bâtit une vie ou un ministère. Amen. Troisième qualité. Surnommé Barnabas, donc ce qui signifie « fils d'exhortation ». Ensuite, lévite. C'est drôle cette expression lévite ici. C'était un lévite, donc un ancien lévite qui s'est converti. Et alors là, il y a une belle qualité. Un lévite travaillait toujours pour la seule gloire de Dieu. Tout ce qu'il faisait, le lévite, il était conscient que c'était pour la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi il y avait quelque chose de spécial avec Barnabas, dans son comportement, dans ses paroles. Il n'agissait pas comme les autres. Tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, à aucun moment, il n'essayait de ravir la gloire à lui-même, d'attirer les regards sur lui. Il était observé. C'était un ancien lévite. Et ce ministère était uniquement pour la gloire de Dieu. C'était une grâce qu'il avait reçue. Il en était tellement conscient qu'il faisait tout pour la seule gloire de Dieu. Voilà une autre vérité que si vous voulez que Dieu vous utilise, et si je veux que Dieu continue de m'utiliser, une vérité importante. Seigneur, je veux travailler pour la gloire de ton nom, pour glorifier ton nom, et non pas pour ma propre gloire, et non pas pour essayer de m'élever en quoi que ce soit. Je ne suis rien, Seigneur, toi tu es tout. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles, jamais. Dieu ne donnera sa gloire à un homme. Et Dieu cherche des personnes, et il a trouvé en Barnabas ce Lévite, un homme comme cela. Aujourd'hui, quand vous considérez certains ministères, vous sentez tellement que l'homme se glorifie, que ça vous fait même de la peine. Un tel état d'esprit déshonore le Seigneur. On se prêche soi-même. On veut montrer qu'on a de la puissance. On veut montrer qu'on a une grande église. On veut montrer qu'on est plus que les autres. Et quand il y en a un petit serviteur, on le méprise, c'est un petit. Il a une église de 10 membres, 100 membres. Moi, la mienne, c'est 1000, 2000. C'est une classe supérieure, ça. Alors, tu restes dans ton coin, moi dans le mien. On n'est pas dans le même rayon, là. C'est pas dans le même camp. Et c'est là que beaucoup font des erreurs et s'égarent. Lévite, il savait que tout ce qu'il faisait était pour la seule gloire de Dieu. Et qu'on n'ose pas toucher à la gloire de Dieu. Hérode, dans les Actes, à un moment donné, la foule s'est écriée « Voix de Dieu et non d'un homme !» Et il ne les a pas raboués en leur disant « Non, non, il a accepté cela. Un ange du Seigneur est venu le frapper. Il est mort rongé de ver. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de ministères qui sont rongés par les vers, on ne le voit pas. Parce qu'ils ne donnent pas gloire à Dieu. Mais si c'est rongé par les vers, tôt ou tard, ça tombera. Ne nous fions pas aux apparences, mes amis. Ne regardons jamais aux apparences. Que dans notre cœur, dans votre cœur, puissiez dire, Seigneur, je ne veux rien pour moi. Combien de fois je dis au Seigneur, rien pour moi, tout pour toi. Rien pour moi, tout pour toi. Ce soit une prière sincère. Ce sont des petites choses que je vous dis, c'est un peu à cœur ouvert que je vous parle ce soir. Mais c'est très important. Sinon, on tourne en rond et on se casse la figure, on dévie. Combien de jeunes ou de moins jeunes avaient quelque chose qui pouvait permettre au Seigneur d'aller loin, mais vous les voyez une année après, 2 ans après, il n'y a plus personne. Ils sont sur la touche, sur une voie de garage, ou complètement égarés. Parce qu'à un moment donné, ils ont pris la gloire, pour eux-mêmes, la gloire qui revenait à Dieu. On ne joue pas avec ces choses. Et vous savez, la compétition est grande, même parmi les serviteurs de Dieu aujourd'hui. C'est à celui qui a la plus grande église. Le plus grand titre, le plus grand, je ne sais quoi, ministère. Jésus a bien dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui... Qui quoi ? Qui sert. Qui sert. La gloire de Dieu. Ne touchons pas à la gloire de Dieu, mes amis. Si Dieu voit en toi cette soif de donner gloire à Dieu et de ne rien prendre pour toi quand il te bénit et que tu sais redonner au Seigneur ce qu'il t'a donné. Dieu te bénira encore et encore. Et tu seras étonné jusqu'où le Seigneur pourra te conduire. Mais à une condition que tu ne ravisses point la gloire qui revient à Dieu. Lucifer, c'était un ange extraordinaire. Et il est devenu démon, le diable, parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu se glorifier. Une leçon importante, mes frères et sœurs. Quatrième qualité qui se trouve toujours dans ce mot lévite, dans ce nom de lévite, ce n'est pas seulement quelqu'un qui savait qu'il devait travailler pour la gloire de Dieu, mais le lévite était un serviteur fidèle dans les plus petites choses. Le sacrificateur, lui, avait un ministère plutôt visible dans le tabernacle, n'est-ce pas? Mais le lévite, c'était un ministère pratiquement invisible. Il était chargé de s'occuper de toutes les petites choses qu'il y avait à faire. Mais il les faisait pour Dieu. Si bien qu'il n'y avait pas de petites choses. Il n'y a rien de petit quand on fait quelque chose pour Dieu. Tout est grand. Même les petites choses sont grandes quand on les fait pour Dieu. Mais quand on ne les fait pas pour Dieu, les plus grandes choses sont petites. Il était fidèle dans les plus petites choses. Là encore, Dieu nous teste. Ça, c'est trop pour certains. Ils visent directement le grand ministère. Les petites choses, ce n'est pas pour eux. Et Dieu te dit, si les petites choses, ce n'est pas pour toi, eh bien, le grand ministère ne sera pas pour toi aussi. L'autre, c'est ce que tu te fabriques toi-même, mais ce n'est pas moi qui te l'ai donné. Il était fidèle dans les plus petites choses. Alors écoutez-moi bien. Les plus petites choses, tout le monde peut les faire. Et il y a toujours une petite chose à faire dans notre vie chrétienne et dans l'Église. Amen. Personne ne peut dire, moi je n'ai rien à faire. C'est un mensonge, c'est une excuse. La plus petite chose, si vous êtes prête à la faire, si vous êtes prêt à la faire, eh bien, vous pouvez faire quelque chose. C'est des petites choses. Vous pouvez les faire. Il n'y aura pas d'excuse là-haut. Vous ne pouvez pas dire, ah, mais moi, j'avais rien du tout. Eh ben voilà, je t'ai préparé les petites choses. Pourquoi tu n'as pas voulu les faire? Ah, mais, ah ben, voilà. Tu n'auras pas d'excuse là-haut. La vie est faite d'une multitude de petites choses. Ne perdez pas votre temps à courir après les grandes choses. Faites les petites choses que Dieu a placées sur votre chemin. Et il a placé de petites choses sur le chemin de tout chrétien. Vous n'avez pas besoin de courir, de faire 500 000 kilomètres. Là où vous êtes, le Seigneur les a placées. Il faut simplement regarder et agir. Un jour, j'ai lu cette pensée qui me revient maintenant. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire, et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. Et voilà, on en est là. Et beaucoup de chrétiens sont là. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire, et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. Et voilà, on en est. On ne fait rien du tout. Il y a l'esprit aussi. Un jour, un pasteur dans une église en France a dit, dans chaque église, il a dit, il y a trois sortes de chrétiens concernant le service pour le Seigneur. Il a dit, premièrement, il y a ceux qui ne font rien. C'est leur ministère, entre guillemets. Ils ne font rien. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je fais rien. Une deuxième sorte de chrétiens, ce sont ceux qui critiquent ceux qui font quelque chose. Un drôle de ministère, ça. Hein? Mais il y en a. Ils voient toujours ce qui ne va pas chez l'autre. T'as vu ça? Non, je suis pas d'accord, c'est pas bien. Il devrait faire comme ci, il devrait faire comme ça. Non, pas, c'est pas... Non, c'est pas... Ils savent toujours ce que l'autre devrait faire. C'est leur ministère. Ils critiquent toujours ceux qui font quelque chose. Vous pensez bien que c'est pas un ministère. Il vaut mieux qu'ils l'abandonnent tout de suite. Et troisièmement, il y a au moins un bon groupe. Alors, qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui font quelque chose malgré les critiques. Je vais répéter. Ce sont ceux qui font quelque chose malgré les critiques. Voilà ce que Dieu attend de vous. Et si vous êtes décidé à faire les plus petites choses, eh bien, Dieu vous aidera. Parce que quand on fait quelque chose pour le Seigneur, il y en a toujours qui rouspéteront, n'est-ce pas vrai? Mais ceux qui murmurent tout le temps, murmurent, ils sont toujours entre quatre murs. Murs. Ils bâtissent des murs. Et voilà pourquoi ils ne sont jamais mûrs. Ils ne sont jamais mûrs, le soleil n'entre jamais. Il y a tellement de murs que le soleil ne pénètre pas. Ils sont toujours dans l'obscurité. Et ils dépérissent. Il n'y a rien qui pousse. Il y a une petite herbe qui pousse. Il n'y a plus rien du tout. Là. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Murmure. Chaque fois que tu murmures, tu bâtis un mur. C'est facile de murmurer. Il faut dire, Seigneur, c'est fini, ça, j'en veux plus. Je veux faire quelque chose, même si on me critique, je veux faire quelque chose. Êtes-vous cette personne-là? Parce que combien de chrétiens se laissent arrêter? Ils sont bien disposés. Combien j'en ai vu? Ils viennent pas, oh là, bon, allez, pasteur, voilà, je veux dire, maintenant, vous pouvez compter sur moi et tout. Alors, tant que tout va bien, oh, formidable. Dès que l'opposition commence, la personne entend. Dis donc, qu'est-ce que je fais là? Pas tellement d'accord. Comment? Alors, dès qu'ils entendent une petite critique, ils se calment tout de suite. Ils disent, oh, si c'est ça, je ne travaille plus maintenant pour le Seigneur. Ils ont osé me critiquer. Ah bon, qui es-tu? C'est parfait. On a critiqué le Seigneur, est-ce qu'on ne te critiquera pas toi? On a critiqué le Seigneur qui était parfait. Et toi, tu ne veux pas qu'on te critique? Ça, c'est de l'orgueil. Si la critique est valable, accepte-la, change. Mais si c'est un mensonge, tu la laisses courir. Et toi, tu fais ton travail. Amen. Mais ne te laisse pas arrêter. Combien de chrétiens ont commencé quelque chose, étaient disposés, bien disposés. Mais dès que l'opposition arrive, dès que la critique arrive, l'adversité arrive, dès que les choses ne vont pas comme ils pensent, on abandonne tout. Et c'est là la grande erreur. Dieu permet ces choses pour fortifier votre foi, pour vous permettre de crier à lui, de vous attendre à lui, l'adversité dans le plan de Dieu est pour fortifier votre foi. Amen. Les arbres qui se trouvent au début des forêts comme cela, plus un arbre a le vent contre lui, plus les racines s'approfondissent. Utilise l'adversité, la tempête pour approfondir tes racines et pour être plus fort. Et non pas pour tomber au premier coup de vent. Barnabas, c'était un lévite. Il n'y avait pas de petits détails qui étaient insignifiants pour lui. Et si vous savez veiller au plus petit détail, Dieu le verra. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des plus grands. Et ne l'oubliez pas, Dieu commence toujours par les petites. Nous, on veut commencer par des grandes, mais Dieu nous dit, moi, je commence par les petites choses. Alors, qui est-ce qui doit changer? C'est le Seigneur ou c'est vous? C'est vous qui devez changer, c'est pas le Seigneur. C'était un lévite. Il avait appris ça. Et il le faisait pour la gloire de Dieu. Petite chose faite pour le Seigneur est grand. Et la plus grande chose qu'on puisse faire et qu'on ne fait pas vraiment pour le Seigneur est très petit aux yeux de Dieu. Alors voyez-vous, Dieu a un travail pour tout le monde parce que tout le monde peut faire une petite chose. Il n'y a pas de chômeur dans l'église du Seigneur. Le chômage n'existe pas parce que tout le monde peut faire une petite chose. Et c'est comme ça que le Seigneur a voulu que les choses se fassent. Parce que personne un jour pourra l'accuser là-haut. C'est pour ça qu'il a été sévère, le Seigneur, avec celui qui a enterré son talent. Vous vous souvenez de l'histoire de celui qui avait un talent, il l'a enterré. L'autre en avait deux et cinq. Ceux-là, Ils sont allés, ils l'ont fait fructifier. Et ça a marché. Mais celui qui avait un talent, ou dans une autre part, ou dans... c'était une mine. Il a enterré sa mine. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ont une mine d'enterrement. Si tu enterres ta mine, rappelez-vous bien de cela, une église peut devenir un cimetière. Les chrétiens enterrent leur talent. Imaginez-vous si par quelques-uns, la majorité a enterré ses talents. C'est un cimetière. C'est un peu imagé, ce que je vous dis, mais c'est un peu, c'est la réalité. Et le Seigneur a été très sévère avec celui-là. Très sévère. Il avait une mine. Cette mine pouvait devenir deux. De deux, ça pouvait passer à quatre. De quatre à huit, et ainsi de suite. Et vous remarquez, dans la parabole, il est dit, le Seigneur donna des talents selon leurs possibilités. Non, pas selon leurs possibilités, selon... à chacun, selon... sa capacité, voilà. À chacun selon sa capacité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aux yeux du Seigneur, il n'y a pas d'incapable. Même celui qui avait reçu un talent était capable, puisqu'il a donné à chacun selon sa capacité. Donc, aux yeux de Dieu, celui qui a reçu un talent était capable. Donc, personne ne pourra dire un jour au Seigneur, « Moi, je n'étais pas capable. » Ça ne marchera pas là-haut. Mais je t'ai donné un talent. Si tu avais mis en pratique ce talent, tu en aurais eu deux. Personne ne pourra avoir l'excuse. Moi, je n'étais pas capable. Parce qu'aux yeux de Dieu, si tu es chrétien, né de nouveau, tu es capable. Même celui qui a un talent. Et si tu dis que tu n'es pas capable, alors tu n'es pas chrétien. Tu as besoin de te convertir. Les inconvertis ne sont pas capables. Mais une fois que tu deviens chrétien, tu as au moins un talent, et si tu as au moins un talent, tu es capable. Amen. Alors ne l'oublions pas, il a été très sévère. Avec les deux et cinq talents, ça a marché. Mais le Seigneur a été plus sévère avec celui qui a un talent. Parce que la majorité des problèmes proviennent avec ceux qui pensent avoir qu'un talent dans l'Église. Et c'est eux qui enterrent tous leurs talents. C'est pourquoi l'Église peut devenir un cimetière. Parce que tout le monde dit, moi j'ai pas grand-chose, je suis pas capable. Mais tu es chrétien maintenant. La chair ne sert de rien, c'est vrai. Mais l'esprit vivifie. Maintenant, tu es né de nouveau. En Christ. Tu as un héritage. Tu as des possibilités. Tu as des capacités. Par la prière, par la parole. Par l'esprit de Dieu. Tu peux faire une œuvre. Tu ne peux pas dire que tu es incapable. C'est un mensonge. C'est déshonorer ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ce que Dieu peut faire dans ta vie aussi maintenant. Rappelez-vous bien, tu ne pourras pas lui dire là-haut que tu étais incapable. À chacun selon sa capacité. Soulignez bien ça dans votre Bible. Chacun selon sa capacité. Donc, il n'y a pas d'incapable. Ne dites plus jamais ça. Vous déshonorez le Seigneur et vous le traitez comme un menteur. Vous le traitez de menteur. Voilà pourquoi tant de chrétiens ont une mine d'enterrement. Alors il faut demander pardon au Seigneur quand c'est comme ça. Vous savez, ce n'est pas de l'humilité de dire « je suis incapable ». Ça devient de l'incrédulité. Ce n'est plus une question d'humilité, là. Quand Dieu t'a donné un talent et que tu dis « moi, je ne suis pas capable » et qu'il en a donné un, ce n'est plus une question d'humilité. C'est une question d'incrédulité. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Il n'y aura pas d'excuses là-bas. Alors, nous devons tous nous mettre au travail. Chacun dans l'Église doit déterrer son talent et faire les plus petites choses que vous avez à cœur à faire. Faites-le et vous verrez le Seigneur vous aider. Mais ne restez pas sans rien faire. En agissant, vous allez découvrir les talents que Dieu vous a donnés, les autres talents. Moi, c'est comme cela aussi. Que j'ai découvert certains talents que je ne pensais jamais avoir, mais en obéissant au Seigneur, j'ai remarqué que j'avais quelque chose que je ne pensais pas avoir. Vous avez des talents que vous ne pensez pas avoir, mais ils sont là. Mais parce que vous ne faites rien, alors vous ne vous en rendez pas compte. C'est dans l'obéissance que vous allez découvrir ces choses. Et non pas dans l'incrédulité. Quand on obéit, alors Dieu à ce moment-là vient nous encourager. Mais si on ne fait rien, il ne va pas nous encourager dans notre incrédulité. Il était fidèle dans les plus petites choses. C'était un Lévite. Nous, on pense qu'on est humilié quand on nous donne une petite chose à faire. Et on regarde la personne et dit, pour qui tu te prends? Pour qui tu me prends? Mais tu te rends compte, là? Tu me fais faire une chose, là? Mais tu m'humilies devant tout le monde! Regardez comment on réagit. Ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour la gloire de Dieu. On fait ça uniquement pour soi-même. Pour se faire un nom. Et pour paraître quelqu'un devant les autres. Tandis que Barnabas, la plus petite tâche, lui, il n'y a rien qui l'arrêtait. Dans son petit coin-là, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, oui. Je vais bien ranger ces chaises-là. Là, ça dépasse un peu. Là, bien. Tout ce qu'il faisait, le peu, les petites choses, c'était bien fait. Et non pas bâclé. Comme certains le font. Voilà, j'ai fait. T'as fait le travail. Oui, ça y est, c'est fini. Mais t'as bien vite fait, là. Il y avait bien de poussière, là, tout ça. Ah oui, mais là, j'ai mis ça sous le truc, là. C'est parti, c'est pas bateau. Tu travailles bien vite, toi. Vous allez soulever le truc, tout est caché. Voilà comme il travaille. Ça veut dire qu'il travaillait pour être vu des hommes. Mais quand on travaille pour la gloire de Dieu, Dieu sait que c'est là-dessous que c'est dans la Bible. Et si on travaille pour la gloire de Dieu, sous le regard de Dieu, on ne fait pas ça, vous êtes d'accord avec moi? Les hommes ne nous voient pas, mais Dieu nous voit. Ne travaille pas seulement parce que les hommes te voient. Combien travaillent pour le Seigneur, mais il faut qu'on les voit. Si on ne les voit pas faire quelque chose, ils ne font rien du tout. Surtout pas. C'est trop humiliant. Et puis, c'est pas intéressant si personne ne regarde. Ils ne font rien. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas sous le regard de Dieu. Si tu fais sous le regard de Dieu, Dieu te voit, ça suffit. Et Dieu enregistre tout cela, tout ce que tu fais. Et la moindre petite chose sera récompensée là-haut. Même un verre d'eau fraîche, sera récompensé là-haut. Un verre d'eau. Ça veut dire que Dieu regarde. Amen. Il n'y aura pas d'excuse là-haut, écoutez-moi bien. Pas d'excuses. Personne pourra dire, moi je suis incapable. Si tu es enfant de Dieu, tu es capable. À chacun selon sa capacité. Donc chacun doit mettre en pratique ce qu'il a. Dans un domaine ou dans un autre, vous avez une facilité, n'est-ce pas vrai? Vous avez des talents que moi je n'ai pas, moi j'en ai que vous n'avez pas. Chacun d'entre nous, on est variés, on a tous quelque chose, c'est d'accord? Ça c'est comme ça. Mais ne vous comparez pas. C'est là qu'on a le problème. Moi, je veux le talent de l'autre. Et puis, moi, je veux l'autre. Moi, je veux l'autre. Et comme ça, et on méprise ce que Dieu nous a donné. Si Dieu t'a donné ce talent, c'est parce qu'il te convient parfaitement. Et s'il a donné l'autre talent à l'autre, c'est parce qu'il c'est ce qu'il lui faut à l'autre. N'essaye pas de mendier le talent de l'autre. Et en attendant, ne rien faire. C'est pas comme cela. Apprécie le talent que Dieu t'a donné et t'en donnera encore d'autres si c'est nécessaire. Mais t'en auras pas d'autres tant que tu ne mets pas en pratique ce que tu as reçu. Il y en a qui demandent des grandes choses à Dieu et Dieu dit, commence d'abord par les petites choses. Là où je te demande d'obéir, obéis déjà. Et après, ça, on pourra plus loin ensemble. Amen. Sous le regard de Dieu, c'est merveilleux. Devant Dieu, travailler devant lui. Tout est transfiguré, tout est beau, tout est merveilleux quand on le fait pour le Seigneur. Amen. Il n'y a plus rien qui est inutile, il n'y a plus rien qui est secondaire. Tout est prioritaire, tout est beau. Il n'y a plus rien qui vous lasse. C'est pour le Seigneur, il le voit. Et il sera récompensé. Le jour venu. Mais il sera aussi corrigé le jour venu. Combien de qualités je vous ai donné? 4. Une cinquième qualité, et je vais terminer avec cela. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait. Là, il y a une belle qualité aussi. Un esprit de sacrifice ou de renoncement. Il n'était pas obligé de le faire. Ce n'est pas les apôtres qui lui ont dit de faire ça. C'est de lui-même. Il vendit un champ qu'il possédait. Il avait donc un esprit de sacrifice. Ça lui a coûté quelque chose. Est-ce qu'on fait quelque chose pour le Seigneur qui nous coûte? Certains servent le Seigneur, mais il faut que ça ne leur coûte rien. Il faut que ça ne leur coûte rien. On veut faire quelque chose, mais le moins d'efforts possible, le moins de renoncement possible, le moins possible. Il vendit un champ qu'il possédait. N'est-ce pas beau? On voit là une belle qualité. Il a fait un effort. Il s'est sacrifié pour les autres, pour les pauvres qui étaient là, donc il y avait tout cela. Alors, il était prêt à payer le prix. C'est cela, servir le Seigneur. Ça nous coûte quelque chose. Il n'y a rien à payer pour devenir un chrétien. C'est vrai. Mais pour devenir un disciple de Jésus-Christ, il y a un prix à payer. C'est cela, un disciple de Jésus-Christ. Pour devenir un chrétien, il n'y a rien à payer. C'est Jésus qui a tout payé. Mais pour devenir un disciple de Jésus, il y a un prix à payer. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. C'était un vrai disciple. Il vendit son champ. On voit bien qu'il n'était pas attaché. Ça lui a coûté quelque chose. Mais il était prêt à le faire. Et c'est ce qui était agréable au Seigneur. Le Seigneur a vu tout cela. Et il l'a béni. Et il l'a conduit ainsi plus loin. Mes amis, quand Dieu nous demande de faire un effort, faisons-le pour le Seigneur. Faisons-le pour le Seigneur. Il y a trop un christianisme superficiel où ce sont les autres qui doivent se sacrifier pour vous. Il y en a qui ont une telle conception de la vie chrétienne, c'est toujours les autres qui doivent se sacrifier pour eux, mais eux jamais pour les autres. Tout est à l'envers. Et après on rouspète. Ne prenez pas exemple sur ces chrétiens-là. Soyons tous comme Barnabas. Il vendit un champ qu'il possédait pour le bien de ses frères et de ses sœurs. Un esprit de sacrifice, de renoncement, ça lui coûte quelque chose. C'est cela. Travailler pour le Seigneur, ça coûte quelque chose. Mais le Seigneur, lui, saura récompenser au temps voulu. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide à devenir des Barnabas. Et certainement que nos vies seront transformées et que nous serons une bénédiction aux autres. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de Barnabas. Merci, Seigneur, pour cet homme qui a touché ton cœur, puisque tu l'as utilisé merveilleusement. Et tu l'as conduit pas à pas, parce qu'il s'est laissé conduire. Il a accepté de commencer petit. Et petit à petit, tu as fait son travail, un travail en lui, qui t'a honoré, qui t'a glorifié. Garde-nous de négliger le talent que tu nous as donné, Seigneur. Garde-nous de dire et de redire encore que nous sommes incapables, alors que nous, en Christ, nous sommes capables. Donne-nous, Seigneur, de changer d'attitude, de comportement. Ce n'est pas de l'humilité de faire cela, c'est de l'incrédulité. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Et nous voulons faire ta volonté maintenant. Et mettre en pratique le talent que tu nous as donné pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous voulons nous oublier nous-mêmes, Seigneur, et penser aux autres et à ta gloire par-dessus tout. Merci Seigneur, nous voici. Nous voulons être disponibles comme Barnabas. Prends nos vies et qu'elles soient toutes pour ta gloire seule, dès maintenant et à jamais. Amen. Restons dans le recueillement encore quelques instants.
Le Seigneur m'a donné ici parole sans savoir que Samuel allait parler là-dessus. Pour plusieurs personnes ici, auxquelles il dit, il t'arrive parfois de penser que tu n'as ni don, ni richesse, ni position pour exercer une quelconque influence dans ce monde. Mais moi, je t'exhorte simplement à pratiquer ta foi au quotidien, au travers de tes attitudes et de tes actions chrétiennes. Et ma lumière brillera d'autant plus fortement que tu te rends disponible pour me laisser agir au travers de toi. Souviens-toi que même la plus faible lumière peut faire une différence dans la nuit la plus sombre. Que ta lumière luise autour de toi et pour ceux que j'ai placés autour de toi, et ils verront tes bonnes œuvres et ils me glorifieront, dit le Seigneur. Simplement, laissez la lumière du Seigneur briller au travers de notre vie. Vivre avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur, en relation constante avec le Seigneur. Et il en sera glorifié. Et nous pouvons tous le faire. Et c'est lui-même qui précisera ce qu'il nous a donné, dans la mesure où nous nous rendons disponibles pour cela. Et le Seigneur s'adresse tout particulièrement à quelqu'un ici, pour une chose particulière où il voudrait que cette personne lui obéisse. Le Seigneur te dit, mon enfant, si tu m'aimes, arrête d'empoisonner ton corps avec le tabac. Ton corps m'appartient aussi. J'en ai fait le temple de mon esprit. Si tu m'aimes, mon enfant, ne continue pas à détruire ce temple. Seigneur, merci de donner l'obéissance à cette personne, afin qu'elle puisse purifier son organisme et ne pas le détruire.
Amen. Oui.
Et prendre la décision qui convient, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et le Seigneur a encore une dernière parole à dire à quelqu'un qui doit prendre prochainement une décision au niveau de son travail. N'agis pas avec précipitation, te dit le Seigneur. Laisse-moi te conduire. Prends du temps pour chercher ma face, pour lire ma parole, pour être en communion avec moi. Cette décision que tu dois prendre est importante et je te donnerai ma pensée. Mais ne cherche pas à ouvrir toi-même les portes que je ferme. Laisse-moi ouvrir celles que j'ai préparées pour toi et je mettrai mon approbation dans ton cœur. Sois confiant, je pourvoirai à tous tes besoins, te dit le Seigneur. Merci Seigneur, parce que quand on t'obéit, quand on est disponible et qu'on t'obéit, tu conduis nos vies.
Amen.
Et tu pourvois parfaitement bien à tous nos besoins, il n'y a pas de problème. C'est quand nous faisons notre propre volonté que ça ne va plus. Et en plus, non seulement ça ne va plus, et nous nous cassons la figure, mais nous déshonorons le Seigneur en ne le laissant pas agir dans au travers de nous. Puisse le très Seigneur trouver l'obéissance qu'il attend de chacun d'entre nous dans les domaines où il veut que nous nous mettions à sa disposition. Amen.
Amen.
Il s'est manifesté au milieu de nous. Il s'est glorifié. Et nous aimerions savoir un peu ce qu'il a fait au milieu de nous. Pour ceux que le Seigneur a touchés, ceux et celles que le Seigneur a touchés. Et je pense que ce serait bien de venir rendre témoignage pour ceux qui ont, celles qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur, de venir le dire. Parce que je pense que le Seigneur attend cela de nous quand il nous touche. Que nous ne gardions pas les bénédictions pour nous-mêmes, mais que nous les partagions déjà avec son peuple et ensuite avec tous ceux vers lesquels le Seigneur nous envoie. C'est comme un remerciement que nous lui devons. C'est comme les 10 lépreux qui, combien sont venus dire merci? Un seul. Est-ce que le Seigneur n'a pas été attristé d'une telle attitude? Et quand le Seigneur guérissait les malades, quand il était sur cette terre, combien de fois il a dit « Va et dis ce que j'ai fait pour toi ». Le Seigneur nous le dit à nous aussi ce soir « Va et dis ce que j'ai fait pour toi ». Par amour pour le Seigneur, disons ce qu'il a fait pour nous. Par amour pour lui. Nous disons que nous aimons le Seigneur et quand il nous accorde une bénédiction parfois grandiose, nous la gardons pour nous-mêmes et c'est dommage. Par exemple, dernièrement, j'ai appris des guérisons que le Seigneur a faites il y a 15 ans en arrière ou il y a 20 ans en arrière. On vient le dire aujourd'hui. Je veux dire, c'est bien de le dire de toute façon, c'est bien de le dire même tard, mais ce serait tellement mieux si nous apprenions à le dire tout de suite. Tout de suite, immédiatement, par reconnaissance au Seigneur. Va et dis ce que j'ai fait pour toi. Alors je demanderai à si quelqu'un veut venir rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour lui ou pour elle, je l'invite à venir partager. Pendant ces réunions-là, de ces réunions-ci, donc, ces jours-ci. Et vous dites à quelle réunion ça s'est passé, hein? Voilà.
En partant en voyage pour le Nouveau-Brunswick, j'ai été pareil. J'ai dit, il faut s'en revenir parce que je veux être en chorale. Quand j'ai monté ici, là, personne ne savait. Je tenais debout, mais personne ne savait. Ma sœur, quand elle a prêché, a fait une prophétie, a dit, il y a une madame ici qui a une douleur dans son ventre. Puis elle est craintive du cancer. Oui, j'étais craintive parce que mes deux frères sont morts en 36 mois. Des intestins. Mes intestins sont bloqués sur 5 jours. Rien du tout. Quand on a eu la réunion des dames, ma sœur Dorothée a dit, il y a une madame ici avec une douleur dans son côté. Le Seigneur te guérit. Je l'ai pris pour moi. Je suis guérie. Je n'ai aucune douleur. Je n'ai rien du tout.
Alléluia, Seigneur. Oh, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus.
Après ça, le prophétisé a dit, il y a quelqu'un ici que sa famille est détruite. J'ai pris ça pour moi. Puis si le Seigneur m'a guéri comme ça, il va rétablir ma famille. Je remercie Seigneur pour ça.
Amen, amen, merci. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Eh bien, ma sœur, tout à l'heure, ici, le Seigneur m'a vraiment a mis sur mon cœur de vous dire, une fois encore, je l'ai dit hier soir de la part du Seigneur, je le répète de la part du Seigneur, parce que c'est très fort ici. Je suis le réparateur des brèches que l'ennemi a faites. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci. Parce que ta puissance n'est pas limitée. À notre entendement, à notre compréhension, à nos idées, tu n'es pas limité, Seigneur. Et nous ne voulons pas le faire non plus. Seigneur, nous tenons dans toute la place et nous te remercions de ce que ce soir tu nous rappelles une fois de plus encore que tu es le réparateur des brèches. Alléluia! Loué soit ton nom. Applaudissons le Seigneur pour cela. Alléluia! Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, nous te louons, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Merci d'être venue le dire. Merci. Merci, Jésus. Encore quelqu'un? le Seigneur est merveilleux. Il peut restaurer des vies détruites, comme j'ai dit hier, ou je ne sais plus quand.
Ça va faire comme ça?
Ça va bien comme ça, oui.
Ouais, depuis quelques semaines, j'avais bien mal dans les genoux, puis j'avais quasiment peur d'être obligé de lâcher la chorale, parce que dimanche matin, j'ai eu bien mal dans mon genou, puis là, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, fais quelque chose de mon genou, parce que je ne pourrais plus continuer dans la chorale. Puis le Seigneur, le dimanche soir, le Seigneur m'a béni, parce que quand Dorothée a parlé de quelqu'un qui avait mal d'un genou, j'ai dit, c'est sans doute moi, mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais guéri seulement que le lendemain matin, quand j'ai dit, ben Colin, j'ai plus mal dans mon genou.
Alléluia! Alléluia!
Je veux la remercier pour ça.
Gloire à toi, Seigneur! Alléluia! Merci, Seigneur! Merci, Jésus! Nous te louons, Seigneur! C'est toi le grand médecin. Oh, Seigneur, et tu nous aimes. Et tu as ton heure pour intervenir. Et tu n'arrives jamais en retard. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce soir, j'ai à cœur de rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait il y a quelque temps ici à Gatineau. Parce que c'est quand même une guérison, un miracle merveilleux qu'il a opéré. Et pour dire que le Seigneur arrive toujours à l'heure, qu'il n'est jamais en retard, même si nous pensons que les choses tardent un peu, et que ça pourrait être trop tard. Lui, le Seigneur, il connaît les temps et les moments pour intervenir. Et nous devons lui faire confiance. Nous étions donc dans une réunion à Gatineau, dans une église, et le Seigneur a donné cette parole de connaissance, qu'il y avait quelqu'un dans l'église qui est atteint d'une grave décalcification des os. En fait, c'était plus grave que ça encore. Et que j'ai dit, le Seigneur touche cette personne maintenant, seulement... Cette personne n'était même pas à la réunion, vous voyez, le Seigneur ne dépend même pas des lieux où nous nous trouvons. Mais par contre, son fils était là. Et quand j'ai décrit la situation de la dame, ses douleurs et tous ses symptômes, à la fin de la réunion, le fils d'une dame est venu me dire « ça c'est pour ma mère ». Et sa maman, âgée de 74 ans, était atteinte du cancer des os. Et elle était couchée sur un lit, elle ne pouvait plus bouger. Donc la mort était certaine. Elle était destinée à partir très rapidement. Et au moment où cette parole a été donnée, le Seigneur a touché cette femme à la maison. Et le fils, quand il est rentré à la maison, la dame ne pouvait plus bouger depuis bien longtemps. Elle était sur son lit de mort, attendant la mort. Le fils, quand il est rentré de la réunion, il a trouvé sa maman debout. Elle ne pouvait plus bouger. Il l'a trouvée debout. Le lendemain matin, elle s'est levée, elle a fait son ménage. Elle est allée faire ses courses. 3 jours après, elle est allée faire ses courses. Et 3 semaines après, elle faisait ses boîtes et son déménagement toute seule. À 74 ans, après avoir été atteint du cancer. Alléluia! Nous te louons, Seigneur! Sois-tu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur! Merci, Seigneur, pour ce grand miracle, pour lequel nous te remercierons jamais assez. Et cette dame, depuis, elle s'est investie dans l'église, elle vient dans l'église, elle travaille dans l'église, elle travaille pour le Seigneur à 74 ans, maintenant elle en a 76, et on l'a revue une année après, elle est toujours bien. Le pasteur a rendu témoignage et tout ça, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Toute l'église a été émerveillée de ça, bien sûr. Et l'idée me revient de cette femme aussi, qui était aussi sur son lit de mort, en Afrique, cette fois, au Burkina Faso, condamnée à mort par la médecine. Ils avaient renvoyé cette femme à la maison, c'était la femme d'un pasteur. Ils avaient renvoyé cette femme à la maison. Les médecins ont dit, pas la peine d'ouvrir, les intestins sont tout pourris. Laissez-la aller mourir en paix à la maison. Alors, Elle était sur son lit de mort. Elle était dans l'agonie de la mort. Elle a vu les anges de la mort venir la chercher. Elle s'est trouvée, selon ses paroles, dans un bain de sang avec des démons de la mort venir la chercher. Elle se débattait contre la mort et elle ne pouvait plus bouger non plus. Cela faisait 10 jours qu'elle ne pouvait plus manger non plus. Donc elle était sans force, presque aveugle et mourante aussi au dernier stade du cancer. Et donc, son mari, pasteur, était à la réunion au séminaire avec nous. Quel courage pour cet homme de laisser sa femme dans ses derniers instants à la maison. Il faut aussi une consécration spéciale pour ça. Alors le Seigneur a honoré la foi et le courage de cet homme, certainement. Il s'est trouvé au séminaire. Et au séminaire, une parole de connaissance est venue. Que le Seigneur touche la femme d'un pasteur qui a laissé sa femme très malade à la maison. Elle est à la maison sur son lit de mort. Le Seigneur la touche. Et au moment où cette parole a été donnée au séminaire, elle n'était pas là non plus. Cette femme, sur son lit de mort, a entendu la voix du Seigneur lui dire « Il y a une de mes servantes qui est en train de prier pour toi. Je vais te guérir. » Et la puissance de Dieu est venue sur elle, a traversé tout son corps, mourant, presque en pourriture, de la tête aux pieds, comme un puissant courant qui a traversé son organisme. Elle qui n'avait pas de force, qui ne pouvait pas marcher, qui rien du tout, même pas voir. Elle a sauté de son lit, elle a couru dehors, elle a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'était vrai, elle était complètement, complètement guérie. 3 jours après, elle est venue à la réunion de dames, elle a rendu témoignage. Elle était complètement guérie. 1 année après, encore toujours, elle est toujours guérie. 2 ans après, elle est toujours guérie. Et le Seigneur l'utilise, elle aussi, maintenant, pour glorifier son nom. Le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il est juste là au bon moment pour intervenir, pour toucher, pour guérir. Et même quand la médecine, les hommes ont dit « c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour toi », auprès du Seigneur, il y a encore une solution. Croyons en un Dieu tout-puissant. Croyons en un Dieu omniprésent, omniscient. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. N'oublions pas qui nous servons. Qui est notre Dieu, notre Seigneur? Et si ce soir, le Seigneur dit qu'il est le réparateur des brèches, alors s'il peut faire réparer des brèches aussi grandes que l'œuvre de la mort dans un corps, il peut faire toutes sortes de choses, je pense, et guérir toutes sortes de situations. N'en doutons pas, je suis le réparateur des brèches. Et le Seigneur m'a donné une parole particulière pour Michel Lavoie, pour le pasteur. Ne crains rien, mon serviteur, car je suis avec toi. Et parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je ferai paraître ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant moi et continue d'espérer en moi. Et ta justice marchera devant toi. Je serai ton guide et je rassasirai ton âme, même dans les lieux les plus arides. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Alléluia, Seigneur, merci de fortifier ton serviteur. De le bénir, de le fortifier, de durcir son front comme de l'airain et d'arroser son jardin. Oh Jésus, touche-le comme tu sais toucher le fort intérieur de quelqu'un, comme tu sais guérir les cœurs brisés, comme tu sais si bien nous restaurer. Tu es le réparateur des brèches. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta justice. Merci pour ton droit. il ta justice brillera comme le soleil en plein midi. Alléluia. Prends courage, mon serviteur. Prends courage. Je suis avec toi, te dit le Seigneur. Alléluia. Amen.